Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Sedoudia, bonjour. En Guinée, Mohamed Béavogui, un vétéran du développement, a été nommé premier ministre de la transition par le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte militaire au pouvoir depuis le renversement du président Alpha Condé le 5 septembre dernier. Monsieur Béavogui, 68 ans, est un ancien sous-secrétaire général des Nations Unies. En nommant un premier ministre sans expérience gouvernementale, le colonel Doumbouya a choisi, dit-on, une personnalité éloignée de la politique intérieure et peu suspecte de participation aux querelles intestines des dernières années. Au Burkina Faso, le chef d'état-major des armées, le général Moïse Miningou, a été remplacé après moins de 3 ans de service par le colonel-major Gilbert Ouédraogo, qui était jusque-là chef d'état-major adjoint. Il aura pour adjoint le colonel-major Vinta Somé. Le président Roch Marc Christian Kaboré a procédé hier soir à une réorganisation de l'armée avec plusieurs changements à la tête des forces de défense et de sécurité 2 jours après une attaque djihadiste contre un détachement militaire qui a fait 14 morts et 7 blessés dans le nord du pays. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'en est vivement pris hier, d'une manière très rare dans l'enceinte du Conseil de sécurité, aux explications de l'Éthiopie sur l'expulsion récente de 7 responsables onusiens, accusés d'ingérence, exigeant des documents écrits à Addis Abeba justifiant les soi-disant mauvais comportements des responsables en question. Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU a nommé hier en vétéran de l'organisation l'Italien Stéphane de Mistura, 74 ans, comme nouvel émissaire pour le conflit au Sahara occidental après le rejet depuis mai 2019 d'une dizaine de candidats par le Maroc ou le Front Polisario. Les corps sans vie de 17 migrants ont été découverts depuis mardi sur la côte ouest libyenne après le naufrage de leur embarcation, a-t-on appris hier auprès des gardes-côtes libyens. La Libye est un important point de passage pour des dizaines de milliers de migrants, majoritairement de pays d'Afrique subsaharienne, cherchant chaque année à gagner l'Europe. La riposte au Covid-19 en République démocratique du Congo a souffert, comme lors de précédentes épidémies, d'une mauvaise gestion des ressources humaines et financières, estime une étude publiée ce jeudi par les experts du groupe d'études sur le Congo. La multiplication des structures ad hoc ne résout pas les problèmes soulevés par les précédentes ripostes. Mauvaise gestion des ressources humaines et financières, mauvaise circulation des informations et rivalité entre les acteurs qui aboutissent à une mauvaise prise en charge des patients et à une démotivation des personnels de santé, selon le rapport. Un juge fédéral du Texas a bloqué temporairement hier soir une loi controversée interdisant la majorité des avortements dans cet État, dans le cadre d'une plainte déposée par le gouvernement du président Joe Biden. L'État du Texas peut faire appel. Le président Biden et son homologue chinois Xi Jinping ont un accord de principe pour avoir d'ici la fin de l'année un entretien virtuel, a indiqué hier un haut responsable de la Maison-Blanche. En Allemagne, sociaux-démocrates, verts et libéraux vont entamer ce jeudi des discussions préliminaires pour tenter de former une coalition inédite et sans les conservateurs de la chancelière Angela Merkel, même si leur chef de file, Armin Laschet, ne s'avoue toujours pas vaincu. Au moins 20 personnes ont été tuées et plus de 200 autres blessées lors d'un séisme de magnitude 5,7 qui a frappé le sud du Pakistan ce matin, selon les autorités locales. Le pape François a exprimé hier au Vatican sa honte au lendemain de la publication d'un rapport accablant sur la pédocriminalité au sein de l'Église de France qui, selon le président Emmanuel Macron, démontre qu'il y a un besoin de vérité et de réparation. La suite de nos informations. Au Mali, nouvelle perte dans les rangs de l'armée malienne dans le centre du pays. Une attaque djihadiste présumée a fait au moins 16 morts parmi les militaires hier mercredi, selon des sources sécuritaires et médicales maliennes. Le point avec Abdourahmane Dia.
Ces sources citées par l'AFP font aussi état de 10 blessés, dont des cas graves. L'attaque s'est produite sur la route entre Bankass et Bandiagara, dans la région de Mopti. Ce bilan a été confirmé par une source au centre de santé communautaire de Bandiagara, soulignant que les 16 corps se trouvaient à la morgue de cette localité. Le 28 septembre, 5 gendarmes maliens qui escortaient un convoi d'une entreprise minière avaient péri dans une attaque dans l'ouest du Mali. Cette attaque avait été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda. Le GSIM a également revendiqué une autre attaque visant au convoi d'évacuation médicale de l'armée dans le centre du pays qui avait coûté la vie à 4 militaires. Depuis 2012, ces violences, entremêlées à des conflits intercommunautaires, se sont propagées du nord au centre du Mali, qui en est devenu le principal foyer, puis au Burkina Faso et au Niger voisin.
L'état-major des armées, dans un communiqué publié mercredi dans la soirée, écrit que le bilan provisoire s'établissait à 9 militaires morts et 11 blessés et 3 véhicules détruits. L'Organisation mondiale de la santé a recommandé hier le déploiement massif du premier vaccin contre le paludisme chez les enfants vivant en Afrique subsaharienne et dans des zones à risque. D'autres détails avec Claire Morin-Gibourg.
C'est un moment historique. Le vaccin antipaludique tant attendu pour les enfants est une percée pour la science, la santé infantile et la lutte contre le paludisme, a déclaré le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus. Le RTS,S est un vaccin qui agit contre un parasite transmis par les moustiques. Pour l'Afrique, où le paludisme tue plus de 260 000 enfants âgés de moins de 5 ans chaque année, ce vaccin est synonyme d'espoir, d'autant que les craintes d'une résistance du paludisme au traitement augmentent. Depuis 2019, 2,3 millions de doses de ce vaccin ont été administrées au Ghana, au Kenya et au Malawi. Les résultats du projet pilote ont montré que ce vaccin réduit considérablement le paludisme sous sa forme grave de 30%. Un autre vaccin candidat développé par l'université d'Oxford, Matrix-M, a suscité l'espoir en avril, affichant une efficacité jusqu'ici inégalée de 77% lors d'essais de phase 2. Il pourrait être homologué sous 2 ans.
Ici aux États-Unis, le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a proposé mercredi aux démocrates une solution temporaire pour sortir de l'impasse parlementaire et éviter le risque imminent d'un défaut de paiement. Précision de John Linden.
Pour protéger les Américains d'une crise à court terme provoquée par les démocrates, M. McConnell propose un plan en 2 volets. D'une part, il permettra aux démocrates d'approuver au plus vite une nouvelle limite d'endettement qui sera valide jusqu'en décembre. Cela laissera le temps nécessaire, selon lui, au parti de Joe Biden pour approuver avec les seules voix démocrates une solution à plus long terme à travers une manœuvre parlementaire compliquée, la réconciliation. Le camp Biden se refuse jusqu'ici à utiliser cette manœuvre car il la juge trop risquée. Le plafond de la dette est le montant maximum d'endettement des États-Unis. Il est fixé à un peu plus de 28 000 milliards de dollars. Cette limite sera atteinte le 18 octobre, selon le Trésor américain.
La Minute Éco, Rosine Mounezero.
En 2021 et en 2022, la demande mondiale en sucre pourrait dépasser l'offre pour la 3e année consécutive, selon le dernier rapport du négociant américain Stonex. Le déficit global dans la denrée atteindra 800 000 tonnes, contre 2,9 millions de tonnes enregistrées un an plus tôt. Ceci est notamment dû à la pandémie de coronavirus qui avait entraîné un ralentissement de la demande du fait des mesures de confinement et de la fermeture des restaurants. L'année dernière, l'opérateur de téléphonie mobile MTN Uganda a accepté de céder une partie de son capital en échange du renouvellement de sa licence télécom. Selon l'agence Ecofin, MTN Uganda a jusqu'en juin 2022 pour flotter 20% de ses actions sur la bourse locale. Une fois l'opération achevée, son actionnaire principal MTN Group ne détiendra alors plus que 76% de parts, tandis qu'un total de 24% d'actions sera détenu par des investisseurs locaux. L'Agence multilatérale de garantie des investissements, MIGA, vient d'allouer une garantie de 5,2 millions de dollars pour la construction d'une centrale solaire au Burkina Faso. L'infrastructure d'une capacité de 30 mégawatts est mise en place par la compagnie française Green Yellow. Baptisée Société de production d'énergie solaire d'Ouagadougou, la centrale fournira sa production à la compagnie électrique nationale, la Sonabel, et a déjà obtenu la signature d'un accord de rachat d'électricité sur une période de 25 ans.
Merci, Rosine. Et maintenant, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous. Les matchs des 3e et 4e journées des qualifications au Mondial 2022 Zone Afrique ont débuté hier. Le Soudan a tenu la Guinée en échec 1-1, tandis que le Maroc a disposé de la Guinée-Bissau 5-0. Un match qui a failli ne pas avoir lieu. Le sélectionneur de la Guinée-Bissau, Bassirou Kandé, a expliqué que ses joueurs et membres de l'encadrement ont développé des douleurs d'estomac environ 15 minutes après le dîner, suivi de diarrhée et de vomissements. 25 d'entre eux ont été emmenés à l'hôpital et en sont sortis avant l'aube mercredi. Par précaution, nous avons ensuite amené notre propre nourriture à l'hôtel, a-t-il ajouté. Le chef de la délégation de la Guinée-Bissau, Carlos Texera, a un temps menacé de boycotter le match. Après cette victoire, le Maroc est en tête du groupe I avec 6 points, devant la Guinée-Bissau qui compte 4 points. Plusieurs rencontres au programme de ce jeudi, dont République démocratique du Congo, Madagascar, le Nigeria reçoit la Centrafrique, le Mali joue le Kenya ou encore la Tunisie reçoit la Mauritanie. En Europe, Bonucci expulsé, Donnarumma hué, San Siro insuffisant. L'Italie, après 3 ans sans défaite, a été brutalement ramenée sur terre hier à Milan par une audacieuse Espagne vainqueur 1-2. La Rora jouera la finale de la Ligue des Nations contre la France ou la Belgique qui s'affrontent ce soir. Un doublé de Ferran Torres et l'exclusion du capitaine Leonardo Bonucci à la 42e minute ont assommé l'Italie avant la pause. Le but tardif de Lorenzo Pellegrini à la 83e n'aura suffi qu'à rallumer le volcan San Siro sur les dernières minutes en prenant sa revanche après la cruelle élimination au tir au but à Wembley en demi-finale de l'Euro il y a 3 mois. La Rora met fin à 37 matchs sans défaite des champions d'Europe, le record pour une sélection nationale. Justement, le capitaine de l'équipe d'Italie, Giorgio Chiellini, a assuré mardi avoir eu honte après les insultes racistes ayant visé le défenseur sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, dimanche à Florence. Après la victoire contre la Fiorentina, 2-1, j'ai eu honte en tant qu'Italien et en tant que Toscan, a déclaré le défenseur de la Juve. La Fiorentina s'est excusée auprès de Kalidou Koulibaly, qui a été visé tout comme ses coéquipiers nigériens, Victor Osimhen et le Camerounais Frank Zambo Anguissa.
Merci Yacouba. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Lutte contre le Covid-19 en République démocratique du Congo. Coup d'envoi hier d'une campagne de vaccination à l'aide de doses Pfizer dans le Nord Kivu. Cette province située dans l'est du pays vient en deuxième position au plan national quant au nombre de cas et de décès liés au coronavirus. De Goma, notre correspondant Zanem Neti Zaidi.
Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Dima, a lancé la campagne de vaccination avec des doses de vaccin Pfizer dans les centres de vaccination situés dans l'enceinte de l'hôpital de référence de Goma. Selon le gouverneur militaire, il est primordial pour la population de se faire vacciner car la province du Nord Kivu est la deuxième province qui enregistre des cas et des décès liés au coronavirus. Pour lui, la vaccination reste le seul moyen de se protéger et de protéger toute la communauté.
La province du Nord Kivu compte plus ou moins 11 à 12 millions d'habitants. Et depuis tout ce temps, nous sommes témoins, nous tous, ravagés par cette maladie. Et le gouvernement de la République, pour la protection de sa population, a tout fait pour mettre à la disposition de la population le vaccin. À cette occasion que je lance un appel vivant à toute la population du Nord Kivu de se faire vacciner.
Cette campagne de vaccination s'étendra dans quelques jours sur toute la province, rassure le docteur Janvier Koubouya, chef de la division provinciale de la santé.
Comme l'autorité provinciale vient de recevoir sa première dose, maintenant nous allons commencer la vaccination le plus rapidement dans toutes les autres zones de santé, toutes les villes, tous les territoires, parce que ce Goma qui donne l'ego, juste une bonne semaine pour déployer les équipements au niveau de toutes les zones de santé et les activités vaccinales pourront démarrer de la meilleure manière partout.
Dans la ville de Goma, certaines personnes sont venues prendre leur première dose de vaccin Pfizer, comme cette dame d'une trentaine d'années que nous avons interrogée après sa vaccination. Pour elle, les gens doivent cesser d'exprimer des doutes sur la vaccination et arrêter d'avoir peur.
Les gens qui hésitent de venir prendre le vaccin, je vais leur demander de venir, en tout cas le plus tôt, parce que ça ne coûte rien et puis ça nous préserve. C'est notre santé, la santé toujours, la santé avant tout. Donc ils n'ont pas à avoir peur, ils peuvent venir prendre leur vaccin. C'est pour leur vie, c'est pour leur santé aussi.
Cette campagne vient d'être lancée alors qu'une autre a été lancée en avril dernier avec des doses de vaccins AstraZeneca. Les responsables de la vaccination ont révélé que la population aura les choix entre les deux types de vaccins qui seront disponibles dans tous les centres de vaccination. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Des responsables camerounais, tchadiens, nigériens et nigérians se sont engagés à travailler ensemble pour reconstruire le bassin du lac Tchad. Lors d'une rencontre à Yaoundé cette semaine, ils ont noté que la région revenait progressivement à la normale, mais que le chômage pousse les jeunes à rejoindre les groupes djihadistes qui créent l'insécurité dans cette zone frontalière. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka, relaté ici par Nathalie Barge.
Près de 400 représentants de la société civile, des Nations Unies et de l'Union africaine se sont réunis à Yaoundé pour définir les moyens d'améliorer les conditions de vie dans le bassin du lac Tchad. Dans un communiqué, les gouverneurs de la région ont déclaré que les États membres et les agences de financement vont intensifier les efforts de reconstruction. Plusieurs villages doivent être entièrement restaurés. Aouna Eziakonwa, secrétaire générale adjointe de l'ONU et directrice régionale pour l'Afrique du programme des Nations Unies pour le développement.
Houses have been destroyed. Schools have become non-functional.
Des maisons, des marchés, des magasins ont été détruits et des écoles ne sont plus fonctionnelles. L'état de droit est effacé avec des postes de police complètement détruits. Et donc un programme de stabilisation vise à reconstruire les moyens de subsistance et la vie des personnes qui ont été affectées en veillant tout d'abord à reconstruire les installations utiles à la police par exemple.
Depuis la mort du chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, en mai dernier, des milliers de combattants ont fait défection ou se sont rendus, selon la force multinationale interarmée, qui affirme que les attaques de ses troupes ont affaibli les djihadistes. Richard Fonte Akoum, directeur de l'Institut d'études de sécurité basé à Pretoria, estime que le moment est venu d'engager des efforts de développement durable dans le bassin du lac Tchad.
Ce qui peut paraître normal en ce moment pourrait être le silence avant une autre série d'attaques. Il y a quelques années, une fracture au sein de Boko Haram a vu les groupes se séparer et l'émergence de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Mais en même temps, Boko Haram est sorti plus fort. Donc, je pense que si nous n'avons pas un cadre qui permet une paix et une stabilisation à plusieurs niveaux, il sera très difficile de progresser vers la normalisation et une reconstruction efficace.
Selon l'expert en sécurité, pour mettre fin à la pauvreté endémique dans la région, il faut améliorer les routes afin de permettre aux pêcheurs, éleveurs et agriculteurs de transporter leurs produits vers les marchés. Le montant nécessaire pour la reconstruction du bassin du lac Tchad n'a pas été précisé lors de la réunion, mais le Cameroun a déclaré qu'il allouerait 300 millions de dollars pour la réhabilitation des infrastructures.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Les registres de moelles osseuses comptent peu de donneurs noirs partout dans le monde et sont même inexistants, parfois dans des pays d'Afrique. Un véritable problème qui a des effets sur la diaspora africaine. Notre correspondante Elam Lecoeur est allée à la rencontre de Corinne Tonnier, qui mène le combat en France pour convaincre les communautés afro de se mobiliser pour devenir donneurs. Son reportage.
Corinne Tonnier puise toute sa force dans l'amour inconditionnel qu'elle porte à ses enfants. Elle est à la tête de l'association Courage du Lys Tonnier, qui se donne pour objectif de combler un manque de donneurs de moelle osseuse chez les populations sous-représentées. Son combat, Corinne le mène depuis la mort de l'un de ses fils il y a 9 ans. Ulysse, décédé en 2012 à l'âge de 13 ans, était atteint d'une maladie du sang rare. La seule chance de guérir pour lui était de bénéficier d'une greffe de moelle osseuse venant d'une personne compatible. Une douleur insoutenable pour Corinne Tonnier, présidente de l'association Acute, qui doit désormais encore sauver son autre enfant.
Malheureusement, je ne sais pas comment l'expliquer, j'ai un deuxième fils qui souffre également de la plasie médulaire, qui nécessitera une greffe, on ne sait pas quand, ça peut arriver demain, après-demain, je ne sais pas, les médecins ne savent pas. Donc pour l'instant, il essaie de se maintenir jusqu'à ce que... Mais on ne peut pas y échapper. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, dans les registres, il n'y a aucun donneur compatible pour lui. Ulysse, il y a 10 ans, c'était encore plus compliqué parce que on ne parlait pas beaucoup de la moelle osseuse. C'était pas connu. Moi, malgré que j'ai quand même travaillé dans le paramédical, j'avais jamais entendu parler de grève de la moelle jusqu'à ce que ça tombe sur nous. Et quand il est tombé malade, il a fallu qu'il soit greffé et on recherchait un donneur. Et c'est là où on a commencé à nous expliquer que tant d'origine africaine, c'était compliqué pour nous de trouver un donneur compatible.
La pénurie de donneurs au sein des communautés d'origine africaine est d'autant plus dramatique que les membres de ce groupe ethnique présentent une grande diversité antigénique. Il est donc beaucoup plus difficile que pour des Caucasiens de leur trouver des donneurs qui soient compatibles. Pour les trouver, il faut déjà pouvoir les identifier avec des registres. Liste de donneurs quasi inexistante pour la communauté africaine aux quatre coins de la planète. C'est ce que nous explique le docteur François Zodat, hématologue.
On essaye effectivement d'inscrire des donneurs africains partout dans le monde, sauf que la proportion des Africains dans les différents pays n'est pas forcément très importante. Il nous faut un grand nombre d'inscrits pour trouver celui qui est compatible. Par contre, on pourrait imaginer avoir des registres en Afrique et à ce moment-là avoir beaucoup plus de donneurs africains, lesquels pourraient servir soit pour être greffés sur place le jour où on arrivera à le développer, soit être prélevés pour donner à leurs compatriotes qui sont actuellement dans une diaspora un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement il y a une instabilité politique qui fait que les contacts sont pas toujours simples à prendre de façon durable, mais l'association, en particulier l'association Acute, essaye de monter un registre au Cameroun, qui sera bien entendu un registre régional, parce que ça n'a pas d'intérêt de greffer juste les Camerounais, il faut greffer tous les Africains, les subsahariens ou du Maghreb, puisque au Maghreb on n'a pas non plus de registre aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est un vrai sujet.
Pour un tiers des malades, les médecins arrivent à trouver un donneur dans le giron familial, mais pour le reste, donc la majorité, ils doivent poursuivre la recherche au sein des registres de donneurs non apparentés. Et la mission est extrêmement difficile puisqu'il y a seulement une chance sur 1 million d'être compatible avec quelqu'un qui n'est pas de la famille. Elam Lecoeur pour VOA Afrique, Paris.
Des sénateurs américains ont de nouveau promis mardi d'agir contre le pouvoir colossal de Facebook. Ils y sont vivement encouragés par une lanceuse d'alerte, ancienne ingénieure du géant des réseaux sociaux, venue témoigner au Congrès des dommages sociétaux causés par cette entreprise. Mais jusqu'à présent, les efforts pour réguler les plateformes du groupe américain ont été enthousiastes mais lents. En Afrique, la question de l'utilisation des réseaux sociaux se pose avec acuité. Pour en parler, John Linden s'est entretenu avec Jean-Baptiste Essissima, entrepreneur digital et fondateur de plusieurs plateformes afro-centrées. Il est à Ottawa, au Canada.
Le regard que je porte sur le phénomène des réseaux sociaux en Afrique, c'est que ces réseaux sociaux sont venus libérer en quelque sorte les Africains, et cela sur tous les aspects de leur vie. Donc tous les domaines, que ce soit l'art, la culture, le cinéma et même l'expression personnelle, tout le monde a commencé à utiliser les réseaux sociaux pour faire entendre sa voix. Et en 2020, le classement de l'Afrique par rapport au trafic à l'utilisation des réseaux sociaux était de 102%, contrairement à l'Amérique du Nord qui représentait que 46% pour prendre les États-Unis et le Canada. Donc, on peut dire que les réseaux sociaux sont venus libérer la parole et l'expression en Afrique.
L'arrivée de Facebook et d'autres plateformes a créé une nouvelle filière, celle des influenceuses et des influenceurs. Quel est leur rôle dans la société africaine aujourd'hui?
Pour dire vrai, je vais un peu être dur. Ces catégories de personnes n'apportent vraiment pas grand-chose à l'Afrique parce qu'ils sont beaucoup plus dans la distraction, et c'est là le but des réseaux sociaux, c'est-à-dire créer des conditions qui vont permettre aux utilisateurs d'être constamment connectés. Et c'est ce trafic-là qui crée la richesse pour les plateformes. Mais ils ont compris que pour retenir ces personnes aussi, il faut les stimuler en leur proposant des petits gains, des avantages. C'est ce qui fait que tout le monde aujourd'hui se lève, devient influenceur. Mais concrètement, sur le terrain, ça n'apporte vraiment pas une valeur ajoutée.
Pourquoi les Africains n'utilisent pas les plateformes africaines, par exemple?
Vous savez, lorsque les applications et plateformes occidentales, je vais appeler ça ainsi, arrivent en Afrique, ces plateformes-là sont déjà en phase d'expansion. C'est-à-dire qu'ils entrent sur le marché en proposant déjà une valeur ajoutée bien plus forte. Or, les plateformes africaines sont en phase de démarrage. Et il est difficile pour elles de concurrencer ces plateformes occidentales qui sont en phase d'expansion et qui viennent déjà avec une valeur ajoutée bien plus forte. Si les Africains font preuve de patience et d'indulgence, et que les promoteurs, les porteurs de projets technologiques en Afrique sont soutenus par le gouvernement, par les gouvernements, par les investisseurs, pour qu'ils puissent aussi élever la valeur ajoutée de leurs applications, je pense que les Africains vont commencer à les utiliser petit à petit. Parce que ces applications-là sont conçues pour être plus proches de leur réalité, sur tous les plans.
Jean-Baptiste Ississima, entrepreneur digital et fondateur de plusieurs plateformes afro-centrées.
Avec vous, dans Washington Forum cette semaine, les relations entre l'Afrique et la France. Montpellier accueillera le 8 octobre le sommet France-Afrique qui, pour la première fois, ne verra pas la participation de chefs d'État du continent. Paris a plutôt invité des membres de la diaspora, des jeunes et de la société civile qui sont au cœur de la remise en cause des relations franco-africaines. Le sommet se tient aussi dans un contexte de tension entre Paris et des capitales comme Bamako ou Alger. La France est-elle en train de perdre du terrain en Afrique? Les relations peuvent-elles être réparées et comment? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOAAfrique.com.
Voilà. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sédoudia et de Georges Léonard Sagno à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.